La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout au long d'un siècle durant lequel les nations d'Europe puis du monde se sont entre-déchirées, Nabokov aura été cet écrivain d'une littérature d'au-delà des frontières, et ceci jusque dans la langue, puisque la moitié de son œuvre a été écrite en russe et l'autre moitié en anglais, tout cela dans un bain d'influence française. Il est donc sans doute devenu le plus grand romancier russe du XXe siècle et probablement l'un des plus grands écrivains américains aussi, comme nous allons le voir ici, jusqu'à jeudi. Jeudi, c'est justement d'un Nabokov expert de la littérature dont nous allons parler, avec Cécile Gilbert qui reviendra sur les fameux cours que l'écrivain donnait à l'université de Cornell et qui ont été édités par la suite. La veille, mercredi, nous serons avec Didier Machu pour parler de Lolita, roman incontournable et plein de surprises. Enfin, demain, nous tâcherons d'évoquer la place que la littérature elle-même tient dans le projet artistique de Nabokov, en repérant les personnages d'écrivains dans son œuvre. Ce sera avec Yannick Chupin. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de l'écrivain, nous sommes avec Laure Troubetskoy, traductrice notamment des Lettres à Vera de Vladimir Nabokov aux éditions Fayard en 2017, mais également de certains textes dans le volume de ses Nouvelles complètes dans la collection Quarto chez Gallimard, dont elle a par ailleurs fourni la chronologie. Et puis elle est traductrice de la préface à l'édition russe de l'autobiographie de Nabokov intitulée Autre rivage aux éditions Folio Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Un jour d'été, peu d'années avant sa mort, il m'a confié sur le sommet de la vie de Manette à Rougemont, pas loin d'ici, que sa vie lui avait donné toutes les satisfactions imaginables, qu'il avait réalisé ce qu'il désirait, que pour lui, le phénomène créateur, c'était comme développer un film déjà exposé. Qu'à la manière de Schopenhauer, tout était déjà là, et il fallait seulement le mettre par écrit, ou bien, comme il a dit dans sa dernière entrevue à la BBC, le cinéma muet commence à parler.
Dimitri Nabokov, le fils de l'écrivain au micro de Quentin Dickinson en 1977. Bonjour Laure Troubetskoy.
Bonjour.
Nabokov qui dit donc avoir été très satisfait de sa vie. Il est vrai qu'il raconte dans son livre autobiographique « Autre rivage » avoir eu une enfance quasi parfaite, qu'il a d'ailleurs cherché à maintenir envers et contre tout, puisque dans « Autre rivage », il n'arrête pas de nous parler d'une sorte de noyau irradiant, de joie, d'extase, de lévitation que seraient ses années d'enfance.
Oui, c'est vrai qu'il a eu une enfance exceptionnellement heureuse, aussi bien sur le plan matériel, mais pour lui c'est finalement secondaire, que sur le plan affectif, avec des parents extraordinairement attentifs. Et le cadre de cette enfance, c'est aussi celui de l'espoir d'une Russie libérale, incarnée par son père, qui était un juriste et qui était une des figures marquantes du parti libéral cadet. Donc cet espoir qui s'est trouvé absolument piétiné par ce qui a suivi. Donc il y a ces deux dimensions. Évidemment, c'est l'enfance personnelle qui domine, mais il y a aussi cette Russie qui a failli émerger et qui a sombré.
C'est quelqu'un qui s'amuse, c'est un enfant joueur. On a l'impression qu'il restera d'ailleurs toujours quelqu'un qui aime jouer.
C'est un enfant joueur et c'est un enfant terriblement observateur. Il a une acuité visuelle extraordinaire et pour lui d'ailleurs il dira que percevoir le monde, ça ne peut se faire qu'avec l'aide de l'imagination créatrice. Et il y a cette conjonction qui est présentée très nettement dans le début de l'autobiographie, le regard, l'imagination créatrice et la mémoire. Et il y a cette scène très touchante où sa mère le conduit, petit enfant, à travers le parc. Elle lui montre une fleur, telle chose, telle autre, en disant à chaque fois « Vozapomni, souviens-toi de ça ».
Il y a quelque chose de proustien, Laure Troupetskoï, dans Autre rivage. C'est une autobiographie, mais c'est aussi presque à la limite du roman vrai. C'est un livre sur la mémoire. Est-ce qu'on peut dire, comment qualifier en réalité le genre finalement de ce livre ?
C'est un genre qui est précisé, qui est défini comme autobiographie dans le titre, en tout cas dans le titre anglais. Mais il a dit ailleurs que c'était une conjonction originale d'autobiographie et de roman. Et effectivement, c'est plus qu'une autobiographie, ou en tout cas pas une autobiographie au sens traditionnel. Il s'inscrit en faux, notamment dans ce qui était sa bête noire, qu'il a nommé plusieurs fois en français dans le texte autobiographie romancée, c'est-à-dire ce genre de biographie, pardon, romancée, dont l'auteur remplit les vides en puisant dans l'œuvre de fiction de l'écrivain, et ça donne une espèce de mélange complètement faux, en fait. Et lui, ce qu'il fait, c'est recréer des éléments de sa vie sans suivre un ordre chronologique parfait, sans que ce soit le déroulement du temps qui commande la structure du livre.
Plus parce la mémoire et le souvenir que le temps lui-même.
Voilà, parce qu'il s'agit justement de surmonter le temps. Au début, il parle de la prison du temps, dans laquelle nous sommes tous plus ou moins enfermés. Et ensuite, quelques chapitres plus loin, il dit « Je ne crois pas au temps ». Donc il s'agit de vaincre le temps.
On reviendra peut-être justement sur cette notion importante chez lui, mais il y a quelque chose quand même d'assez étonnant. C'est rare qu'un écrivain dise comme ça « j'ai été très satisfait de ma vie », alors que tout de même, il y a des blessures forcément, des fêlures dans la vie de Nabokov. Il y en a même beaucoup, il y a des morts. Est-ce que c'est une posture, selon vous ? Cette façon de se présenter.
Je ne dirais pas une posture, mais en tout cas, c'est vrai que sa vie a été terriblement chaotique et marquée par des pertes douloureuses. La perte de son pays, évidemment, c'est la première grande blessure. L'assassinat de son père, qu'il adorait, qu'il vénérait, et avec lequel il entretenait des rapports très proches. Assassiné à Berlin en 1922 par des personnages de l'extrême droite russe.
Qu'il ne visait pas lui en particulier, mais il s'est interposé pour protéger quelqu'un d'autre.
Enfin, il visait Miliukov, qui était le chef du parti, justement ce parti cadet, du parti libéral, et ces individus jugeaient ce parti scandaleusement de gauche, et donc il s'est interposé, et c'est lui qui a pris la balle. Ensuite, il y a les conditions de vie difficiles à Berlin, puis à Paris. À Paris, lorsqu'on lit ses lettres à Vera, on voit qu'il n'a pas le sou. Au fur et à mesure que Hitler s'impose en Allemagne, il devient urgent qu'il quitte l'Allemagne, d'autant plus que Vera, sa femme, est juive, et donc leur fils l'est aussi, aux yeux des nazis. Et on voit qu'il cherche désespérément à trouver un poste en Angleterre, un emploi ici, un emploi là. Rien n'aboutit. Ils vivent dans le plus grand dénuement. Et puis, il y a ce deuxième arrachement, le départ pour les États-Unis, le changement de langue et la renaissance en tant que nouvel écrivain et sous un nouveau nom, qui est son nom, mais qui n'est plus le pseudonyme sous lequel il publiait avant.
Mais il y a un côté peut-être un peu aristocratique au « never explain, never complain », on ne se plaint pas, on n'explique pas, qui est très nabokovien, et peut-être que c'est pour ça que finalement il explique à qui veut bien l'entendre que sa vie a été merveilleuse, malgré quand même tous ces déracinements et tous ces morts.
Mais parce que aussi tous ces exils ont nourri son œuvre. Et ça, c'est justement une dimension qui n'existe pas chez Proust. L'exil qui nourrit la mémoire et qui nourrit l'œuvre.
J'ai passé mes premiers étés à la campagne, dans notre domaine, non loin de Pétersbourg. En automne, on allait dans le Midi, à Nice, Pau, Biarritz, Abbazia. Et en hiver, c'était toujours Pétersbourg, qui est maintenant Leningrad. mais où notre belle maison de granny rose est toujours là, en bon état, extérieurement au moins, parce que les tyrannies, vous savez, elles aiment l'architecture du passé. Notre domaine était situé dans la plaine boisée. Elle est assez proche, par sa flore, du coin nord-ouest de l'Amérique, des forêts de trembles, de sombres sapins, beaucoup de bouleaux et des tourbières splendides.
La compagnie des auteurs sur France Culture, et on entendait à l'instant Nabokov évidemment dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot en 1975. Alors Nabokov qui est né, on ne l'a pas dit, Laure Troubetskoï, à Saint-Pétersbourg en 1899, dans une famille donc de la très haute aristocratie russe. Pour préciser à quel point c'est vraiment la grande aristocratie russe, il faut préciser un petit peu que son grand-père maternel était premier président de l'Académie de médecine, et que ou maternelle peut-être, et que son grand-père paternel était ministre de la Justice. Et donc son père, pour revenir un petit peu sur son parcours à lui, était un légiste éminent qui a donc fait de la politique et qui a même pris part aux révolutions, alors les premières révolutions russes, Laure Troubetskoï.
Oui, il faisait donc partie de ce parti cadet qui fondait de grands espoirs dans une future Russie parlementaire, libérale. Et après février 17, il est resté à Saint-Pétersbourg et il connaissait bien Kerensky. Il dit d'ailleurs dans son autobiographie que l'une de ses ancêtres, von Korp, avait prêté sa voiture à la famille royale française pour la fuite à Varennes. Et par un curieux effet de contrepoint, un aide de camp de Kerensky, pendant l'été 17, aurait demandé à son père s'il pourrait prêter une voiture au cas où Kerensky devrait fuir. Donc, après octobre, tout en restant, parce qu'il avait été élu à l'Assemblée constituante, cette Assemblée constituante mornée qui a été élue, qui s'est réunie une demi-journée en janvier 1918 et qui a été dispersée par les armes par les bolcheviks. Donc, il avait encore un espoir de faire quelque chose, mais il avait déjà envoyé sa famille en Crimée et lui-même va les rejoindre jusqu'à ce qu'il soit contraint à l'émigration en 1919.
Donc le père et la mère sont tout de même des personnalités assez libres, d'une très très grande richesse, mais qui savent très bien que les domestiques leur volent des choses et qui trouvent ça très bien, et puis qui du coup s'engagent tout de même pour un changement de la Russie et qui aimeraient que leur fils soit peintre. Alors c'est quand même des parents pas tout à fait comme les autres.
Oui, au début, on lui fait donner des leçons de dessin. Mais en même temps, ils ne cherchent pas du tout à orienter les choix de leur fils. Ils ont cette attitude qui est effectivement très moderne pour cette époque-là, qui consiste plutôt à essayer de développer les différentes potentialités de l'enfant pour qu'il soit en mesure de choisir. Et lorsque le fils découvre dans le grenier, enfin dans une pièce un peu écartée, des collections de revues d'entomologie et qu'il se passionne pour les papillons, passion qui ne sera pas seulement une passion amateur, il va acquérir une compétence absolument professionnelle. Et d'ailleurs, il va travailler au musée d'histoire naturelle de New York une fois arrivé là-bas. Eh bien, son père s'en réjouit. Son père qui s'intéressait lui-même aux papillons.
Sa mère s'intéressait plutôt aux champignons, mais voilà, un petit peu de la même manière.
Voilà. Et sa mère a développé donc cette imagination créatrice. Donc, ce sont des parents très ouverts, bon, très riches. Mais quand on parle de haute aristocratie, c'est pas du tout l'aristocratie de la cour confite dans les traditions monarchiques. C'est une noblesse active, très cultivée, très ouverte.
Et très cosmopolite, alors.
Et très cosmopolite et très riche aussi, parce que du côté de sa mère, ce sont aussi des industriels.
À 3 ans, je parlais l'anglais mieux que le russe. Et d'autre part, il y a eu une période entre l'âge de 10 et 20 ans, pendant laquelle, quoique lisant une foule prodigieuse d'auteurs anglais, Wells, Kipling, Shakespeare, le magazine The Boy's Own Paper, pour ne citer que quelques cimes, je ne parlais l'anglais que rarement. J'avais appris le français à 6 ans. Mon institutrice, mademoiselle Cécile Mioton, elle resta dans notre famille jusqu'en 1915. On commença par le CID, elle est misérable. Mais les vrais trésors m'attendaient dans la bibliothèque de mon père. À 12 ans déjà, je connaissais tous les poètes bénis de la France. Souvenir, souvenir, comme veux-tu. Et c'est curieux que à cet âge tendre, je comprenais déjà que Verlaine n'aurait pas dû employer une rime si incestueuse, à tonnes des tonnes. C'est la même racine, n'est-ce pas?
Faire la moue, leur Troubetskoy, c'est pas tout à fait vrai ce que racontait Nabokov à Pivot ici sur la façon dont il a appris d'abord l'anglais avant de parler le russe.
Je crois qu'il exagère un petit peu parce qu'avec sa mère il parlait russe et avec sa nourrice aussi parce que ça commence par une nourrice russe, ce genre d'éducation. Mais il dit dans, alors je ne sais plus si c'est Intransigeance, Strong Opinions ou dans l'autobiographie je crois, Autre Rivage, qu'il a appris à lire et écrire en anglais avant le russe. Et ça c'est vrai parce que ça a commencé par une gouvernante anglaise.
Oui, et puis parce que son père, un jour de 1905, alors c'est peut-être une légende, se serait rendu compte que ses enfants russes ne parlaient pas russe, et donc il a été réquisitionné l'instituteur du village où ils étaient en vacances.
Ne savait pas écrire ni lire en russe. Alors effectivement, on a réquisitionné l'instituteur du village, et son père était, enfin ses parents étaient très anglomanes, et il raconte, c'est tout à fait charmant, dans Autre Rivage, comment on achetait toutes sortes de produits dans le magasin anglais de Saint-Pétersbourg, le savon qu'il décrit de façon absolument magnifique et toutes sortes d'objets courants, sans oublier le tub qu'il va transporter avec lui dans tous les lieux de son émigration.
Alors la mère est donc un personnage très très important. Il y a cette anecdote aussi qui est un peu plus qu'une anecdote, quand il se souvient qu'elle le conduisait au lit tous les jours. Alors déjà elle lui achetait un cadeau tous les jours et puis elle le conduisait au lit les yeux fermés en lui faisant monter l'escalier. Ça aussi c'est un souvenir presque proustien, non, Laure Troubetskoy?
Oui, c'est le rituel du coucher.
Le rituel
en fait,
du coucher.
Tous les enfants qui ont eu une enfance heureuse, je crois, ont eu, sous forme plus ou moins brève ou plus étendue, un rituel du coucher. Là, elle le conduit par l'escalier. Oui, alors il a les yeux fermés. Et elle lui dit à chaque marche, elle lui dit step, step, step. Donc là, effectivement, il y a de l'anglais.
Et elle jusqu'à la dernière. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais quand est la dernière.
Et oui. Et alors ensuite, elle lui fait réciter des prières en anglais et en russe. Et pendant qu'il est sur son petit lit à dire ses prières, il voit une aquarelle, ça reviendra dans plusieurs œuvres, il voit une aquarelle qui représente un sentier qui s'enfonce dans une forêt. Et il a le fantasme d'entrer dans l'aquarelle pour aller suivre ce sentier et aller dans la forêt.
Dans la famille, il y a aussi l'oncle Rouka. Alors lui, il est important. C'est également quelqu'un qui est à la tête d'une immense fortune et qui meurt quand Vladimir Nabokov a 17 ans, en lui léguant toute cette fortune.
Oui, 2 millions de dollars et une immense propriété, peut-être encore d'autres choses, que évidemment Vladimir Nabokov n'a pas possédé.
Pendant un an, du coup.
Oui. Et il dit d'ailleurs dans l'autobiographie qu'il avait d'autres choses à penser. Il était amoureux, il écrivait des poèmes, donc il s'est pas spécialement réjoui d'être à la tête d'une pareille fortune. Et heureusement, puisque en 1917, il l'a aussitôt perdu.
Alors il disait que précisément ça n'était pas parce que le régime soviétique lui avait volé tout cet argent qu'il pouvait en vouloir au rouge entre guillemets, mais parce qu'il lui avait volé son enfance. Et c'était ça finalement la grande blessure du basculement révolutionnaire en Russie pour lui.
Il avait un certain mépris pour les gens qui pleuraient les biens qu'ils avaient perdus. Parce que, effectivement, pour lui, c'est voler son enfance, voler les lieux de son enfance, les lieux qui vont peupler de nombreux romans qu'il écrira par la suite. Et cette impossibilité d'y retourner.
Mais sa mère, tout de même, va mourir. Alors, à Prague, lui regrettera beaucoup de ne pas pouvoir être à ses côtés au moment où cela arrivera, mais quand même dans une certaine indigence, ou alors c'est ce qu'on raconte.
Oui, il n'avait plus rien. Une fois, au début, lorsqu'ils sont arrivés, la famille s'est installée brièvement à Londres, et puis les deux aînés, Vladimir et son frère Serge, sont restés pour faire leurs études à Cambridge, et ses parents, avec les trois plus jeunes enfants, sont installés à Berlin, où son père a co-fondé un journal en russe, très important. À l'époque, il y avait une quantité de périodiques russes à Berlin. Ensuite, c'est passé à Paris, qui s'appelait Roul, le gouvernail. Et il y avait des revenus, tout de même. Et puis, ils ont vécu en vendant les bijoux de sa mère, qu'ils avaient réussi à emporter. Et après la mort de son père, plus rien. Et à cette époque-là, le gouvernement tchèque allouait une petite pension à des intellectuels ou des hommes politiques de renom, avec cette idée que si on pouvait vaincre les bolcheviks, ensuite ça ferait une élite russe amie de la Tchécoslovaquie. Et donc la veuve, en tant que veuve de Vladimir Nabokov, sa mère avait une petite pension, mais très petite. Et dans les lettres à Vera, on voit quand Nabokov va voir sa mère les aider à s'installer, qu'ils vivent en fait dans le plus grand dénuement. Ils achètent des meubles d'occasion, plein de punaises ou de cafards, je ne sais plus. Elle est effectivement très pauvre. Et tout en ne gagnant pas grand-chose, Nabokov essaie de lui envoyer de l'argent de temps en temps.
Alors comment se passe l'arrivée finalement de l'idée qu'il va pouvoir devenir un écrivain? C'est par des nouvelles d'abord publiées dans les journaux. La vocation, comment vient-elle?
Alors, c'est d'abord une vocation poétique, comme très souvent dans cette génération-là. Il est nourri de poésie symboliste. Il commence à une époque où l'avant-garde a déjà émergé en Russie, mais ça ne l'intéresse pas, il n'en parle jamais. Pour lui, la matrice de toute cette culture russe extraordinaire de cette époque-là, c'est le symbolisme. Et il raconte dans Autre Rivage la naissance de son premier poème dans le parc, alors qu'il s'est retiré dans un pavillon au vert, formé de losanges colorés, c'est un motif qui revient souvent.
Mais là, il est très jeune encore.
Il est très jeune. Et comme il ne doute de rien, il revient sur cette époque avec beaucoup d'ironie ensuite, et qu'il a de l'argent, il publie un premier recueil en Russie encore à compte d'auteur. Ce dont il se mordra les doigts par la suite, parce que c'était des poèmes évidemment tout à fait immatures. Et une fois en émigration, il va continuer à publier des poèmes et puis se mettre à écrire des nouvelles qui paraîtront au début, pour l'essentiel, dans le fameux Roul, le journal que co-dirigeait son père. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a pris pour pseudonyme Vladimir Sirine. C'est que non seulement, évidemment, il avait le nom de famille de son père, mais le même prénom. Tous les deux étaient Vladimir Nabokov. Vladimir Dmitrievitch pour le père, Vladimir Vladimirovitch pour l'écrivain. Donc, sous le pseudonyme de Vladimir Sirine, qu'il gardera jusqu'à son départ de l'Europe, il va publier d'abord des poèmes, puis des nouvelles, et son premier roman, il l'écrira une fois marié, déjà, en 25, ce sera Mashenka.
Et à quoi ressemble-t-il ce premier roman-là?
C'est peut-être le roman le plus abordable pour quelqu'un qui ne connaît pas Nabokov.
Avec Lolita, quand même.
C'est l'autre côté, tout à fait. C'est un roman où il a mis beaucoup de lui-même, un roman qui se passe à Berlin, dans une pension de famille où vivent des émigrés russes. Donc on a toute une galerie de portraits d'émigrés russes. Ça va de deux danseurs homosexuels qui évoquent les retombées du ballet russe dans l'univers des cabarets de Berlin. Il y a une jeune fille qui travaille comme secrétaire en soupirant parce que évidemment elle n'était pas faite pour ça. Il y a le vieux poète Patiagin, un certain nombre de personnages, et le personnage principal, Ganin, ronge son frein dans cette pension parce que évidemment il a l'impression d'étouffer, et un concours de circonstances fait qu'il est amené à évoquer l'amour de sa jeunesse, Mashenka.
Il y a toujours des amours de jeunesse.
Voilà, mais
Nabokov,
c'est toujours la même en fait. C'est celle qu'on trouve dans Autre Rivage sous le nom de Tamara, et celle que l'on connaît dans l'histoire de la vie de Nabokov, qui s'appelait en réalité Valentina Shulgina.
Il y a beaucoup de jeunes filles quand même dans cette première partie de la vie de Nabokov. Il a été beaucoup amoureux.
Ben oui, c'est normal. Il a dit lui-même qu'il a eu une intense vie amoureuse pendant 10 ans, à peu près entre 17 et 27 ans. Et évidemment, ça a nourri sa poésie. Enfin, sa poésie, oui, elle est nourrie par ses émois amoureux, mais grandement aussi par la Russie perdue. Et c'était peut-être un danger pour lui. Et on voit très bien qu'une certaine cruauté dans certains romans sont peut-être une façon d'éviter ce danger. C'était le danger de se confiner dans la nostalgie de la Russie perdue, qui a été la démarche de pas mal d'écrivains de l'émigration.
Et peut-être que le fait aussi de se marier en Allemagne, mais avec une jeune femme qu'il a rencontrée dans un bal de charité de l'émigration russe, va dans le sens de la bulle russe qui est un petit peu reconstituée. Je parle là évidemment de Vera Slonim qui deviendra sa femme.
Oui, mais de toute façon, ils étaient dans une grande bulle. L'émigration russe de Berlin vivait entre eux. Et d'ailleurs, Nabokov avait peu de contact avec les Allemands. Il dit n'avoir pas su du tout l'allemand. En fait, il connaissait un peu d'allemand courant pour faire ses courses. Mais il dit en tout cas ne jamais avoir cherché à savoir mieux l'allemand parce qu'il avait peur que ça nuise à son russe.
Oui, il parlait mieux français, il parlait très bien français même.
Oui.
Vera Slonim, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que le couple qu'ils forment tous les deux, alors je rappelle que vous avez donc traduit les lettres à Vera, qui sont vraiment très belles. Ce couple-là, c'est un couple un peu idéal. On a l'impression qu'ils ont élevé leur amour au rang d'œuvre d'art, et cela tout au long de leur vie, non?
Oui, tout à fait. Alors il y a un côté construction du mythe, comme il existe souvent chez les écrivains. Mais c'est vrai qu'il a trouvé en elle la partenaire idéale. Bon, une grande amoureuse au début, et par la suite, elle a été, enfin, surtout aux États-Unis, chauffeur, impresario, secrétaire.
Il l'a présentée comme mon assistante dans ses cours, justement, à Cornell.
Mais elle l'a parfois remplacée. À un moment, il était cloué au lit par une sciatique ou quelque chose comme ça. Et on imagine difficilement ça dans l'université française. Mais elle est allée faire ses cours à sa place et elle a corrigé à sa place.
Bah, souvent, il paraît qu'elle corrigeait toutes les copies des étudiants. Oui, oui. On dit aussi qu'elle écrivait les livres en partie. Est-ce que ça vous semble
non,
possible?
Non, ça, je pense pas. Non, elle était une lectrice idéale, mais non, ça, Nabokov était beaucoup trop soucieux de son autonomie de créateur. Ça, je ne pense pas. Elle a sauvé Lolita, en revanche. Elle a sauvé le début de Lolita.
Oui, parce que souvent, il avait la tendance de jeter au feu quelques chapitres. Il voulait le faire aussi,
oui,
avec Lolita.
Il voulait brûler, c'était en 50, les débuts de Lolita. Il avait l'impression que ça n'allait mener à rien. Et elle l'a attrapé sur le chemin de la incinérateur qui était dans leur jardin et elle l'a dissuadé de brûler ses premiers chapitres.
Bon, merci Vera. Il aimait à représenter sa vie comme une spirale avec trois moments de cette spirale qui formeraient la thèse, l'antithèse et la synthèse de sa vie. Quelles sont ces périodes?
Une spirale colorée dans une bille de verre.
Voilà.
C'est une jolie image, très visuelle, avec des effets
d'agate,
de couleurs et de transparence, comme très souvent chez Nabokov. Et ce qui est drôle, c'est qu'il associe à cette image très visuelle la dialectique hegélienne. Alors, la thèse, c'est sa vie en Russie, 20 ans. L'antithèse, c'est sa vie en émigration en Europe.
On peut dire que c'est vraiment une antithèse émigré de la première partie de sa vie, ou c'est juste une formule?
C'est l'opposé quand même, mais en même temps c'est la naissance de l'écrivain. Mais il est exilé et il se sent en exil. Et il n'a pas de... À part ses revenus littéraires qui sont fluctuants, il n'a pas d'ancrage dans la société, il n'a pas de moyens réguliers d'existence. Bon, et la synthèse, c'est l'Amérique. Alors quand il écrit ça, il ne sait pas qu'il y aura encore 17 ans en Suisse. Donc ça se
limite. Ça fait partie de la même partie de la vie, l'Amérique et la Suisse.
Non, mais quand il écrit, il y a pas encore la Suisse. Donc
ouais.
En gros, c'est 20 ans en Russie, 21 ans en Europe, 20 ans aux États-Unis et 17 ans en Suisse.
Et ben on va continuer de détailler ces périodes.
Juste que pourquoi l'Amérique et la synthèse, c'est parce que il n'était plus en exil aux États-Unis.
On va
il
continuer.
Il a trouvé une nouvelle patrie.
À en parler juste après la chronique de Baptiste Liger.
« La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Baptiste Ligier, rédacteur en chef du magazine Lire. Bonjour à vous, Baptiste.
Bonjour, Mathieu.
Et vous nous parlez polar aujourd'hui.
Absolument, parce qu'on parle très souvent du printemps des poètes, vous savez, cette expression, mais justement celle-ci peut vraiment fonctionner avec un autre registre littéraire ô combien populaire, à savoir le polar. En effet, maintenant, traditionnellement, les éditeurs font souvent le choix de faire paraître la plupart de leurs gros titres, leurs titres dits à enjeu, entre mars et mai, sans doute pour bien les lancer, les faire exister tranquillement pendant l'été.
Au calme.
Pour vous, oui, absolument. À ce titre, deux des plus gros festivals dans ce domaine ont traditionnellement lieu à ce moment. D'un côté, Quai du Polar, qui s'est déroulé il y a une dizaine de jours.
À Lyon.
Absolument. Et de l'autre, le Festival international du film policier de Beaune, qui s'est terminé hier soir. Justement, lors de ce dernier, on a vu un certain nombre d'adaptations, enfin très variées, qui nous amènent à cette question, au-delà des qualités des films et des romans, qu'est-ce qui fait qu'un roman noir, un thriller, un polar en tant qu'œuvre littéraire a droit ou pas à une transposition à l'écran ? N'y aurait-il pas, je dirais, une forme de typologie, de normes ?
Alors justement, on peut déjà imaginer que c'est la notoriété de l'auteur qui est un élément essentiel.
Oui, bien sûr, ça compte. Ainsi que le succès en librairie, voici tout. Enfin, on peut prendre comme exemple tous ces polars scandinaves, très en vogue depuis Millennium, les thrillers de Jussi Adler-Olsen, etc., etc. Bon, mais il est vrai qu'un gros nom d'auteur ouvre bien des portes. On va prendre le cas de Roberto Saviano, l'auteur italien bien connu depuis Gomorra. L'évocation de la jeunesse délinquante dans Piranha devient d'ailleurs aujourd'hui un long métrage signé Claudio Giovannesi, qui a été primé non seulement à Beaune mais aussi à la Berlinale. Saviano vient d'ailleurs de publier une sorte de prolongement de ce roman chez Gallimard intitulé Baiser féroce. Mm-hmm. Mais en l'espèce, la seule valeur, disons, marchande de la personne de l'auteur doit aussi être relativisée. Question de sujets porteurs, de décors connus du public, en l'espèce, Naples, qu'on évoque, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et de messages sociaux et politiques pouvant attirer non seulement les grands festivals qui aiment bien justement ces thématiques sociales, mais aussi un certain public intéressé par toutes ces questions.
Donc vous diriez que l'évocation des problèmes sociaux peut faire qu'un polar devienne un film ?
C'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, évidemment. On peut même prendre un exemple très très précis et qui montre bien le paradoxe de la situation. Ainsi, en ce moment, le distributeur The Jokers, qui doit prochainement sortir la belle et brutale adaptation d'un roman de l'américain Frank Beale, Donnybrook. Pour que le film puisse rencontrer son public, puisque c'est quand même l'essentiel, faut-il davantage mettre en avant la peinture des rednecks de l'Amérique profonde fauchés par la crise, comme s'il s'agissait un peu de l'équivalent d'un film de Ken Loach ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre le côté, adaptation de la tragédie classique dans l'Amérique d'aujourd'hui ? Ou bien encore, choisir de tout plaquer sur les trafics en tout genre, les scènes violentes et les combats de free fight ? Bon, en ce qui concerne l'édition, le roman, lui, est publié en édition de poche, à savoir Folio Policier, donc l'étiquette semble quand même assez claire, mais jouer la carte du genre au cinéma, c'est quelque chose de très compliqué, et prendre telle ou telle étiquette, disons auteur ou un peu plus commercial, c'est pas forcément un très bon choix à rendre à l'œuvre en question, aussi bien pour une sortie en salle que sur une plateforme type Netflix.
Mais est-ce qu'un bon polar pour le cinéma, c'est pas d'abord et avant tout des bons rôles, Baptiste?
En tout cas, c'est un élément à ne pas mettre de côté, évidemment, et que ce soit aussi bien à Hollywood qu'en Europe, on cherche aujourd'hui ce qu'on appelle des strong female characters. Absolument. Pardonnez l'anglicisme et le côté pas forcément très élégant de la formule. Bon, on dira les personnages féminins forts pour faire simple, et que l'on dit d'ailleurs très attractifs aussi bien pour les comédiennes que pour les publics qui semblent les plébisciter. Là-bas, justement, le week-end dernier, on a pu voir Duel d'Olivier Massé de Passe tiré du roman de Barbara Abel, Derrière la haine. D'un côté, on avait une femme ayant assisté impuissante à la mort d'un enfant, et de l'autre, la mère de ce dernier, qui semble fermement décidée à se venger par tous les moyens. Mais bon, la réussite, en l'espèce, est peut-être pas forcément au rendez-vous.
Alors pour terminer, Baptiste, est-ce que les liens entre polar littéraire et polar cinématographique se résume, selon vous, à la seule question de l'adaptation ?
Certainement pas, Mathieu. En effet, certains créateurs passent ainsi volontiers d'un domaine à un autre, tel l'esthète de la violence, retenez son nom, S. Craig Zahler, dont on a pu lire certains des romans parus récemment aux éditions Gallmeister. À Venise, l'an passé, il y a quelques jours, au Festival de Beaune, on a ainsi pu découvrir son troisième et formidable long-métrage, Dragged Across Concrete, ou les déboires de deux flics campés par Mel Gibson et Vince Vaughn, qui sont suspendus suite à une vidéo d'arrestation, j'allais dire quand même assez compromettante, et qui décident de s'en prendre à un gang préparant un coup, et c'est bien entendu une mauvaise idée. S'il ne s'agit en rien d'une adaptation, la patte virtuose de ce dialoguiste, puisqu'il est aussi dialoguiste, S. Craig Zahler, montre que la qualité d'une réplique, bah voilà, c'est quand même la preuve d'un vrai savoir-faire littéraire. Problème pour ce Dragged Across Concrete, pour d'obscures raisons, cet authentique petit chef-d'œuvre ne sortira pas dans les salles, mais directement en DVD ou VOD à une date indéterminée, d'où cette idée. Et si on faisait une novélisation pour tous les libraires, ça pourrait être ma foi fort intéressant et la boucle serait bouclée. Et
voilà, adapter des films en livre, c'est une bonne idée. Merci Baptiste Ligier, tout cela est bien plus encore à découvrir dans les pages du magazine Lire, notre partenaire disponible en kiosque. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez, vous êtes bien sur France Culture. C'est le premier jour de notre série consacrée à Vladimir Nabokov, écrivain qui utilisait le pseudonyme de Cyrine pour ses premiers romans, on l'a dit. Mais c'est une précision qu'il faut rappeler avant d'écouter l'extrait qui va suivre. Il s'agit d'une lecture de son livre autobiographique « Autre rivage ».
Ceux qui avaient eu la chance de s'expatrier pouvaient à présent poursuivre leurs travaux en toute impunité, au point qu'il leur arrivait de se demander si le sentiment de jouir d'une absolue liberté intellectuelle n'était pas dû à ce qu'ils œuvraient dans le vide absolu. Cependant, si on les examine rétrospectivement avec sérénité, et si on les juge exclusivement d'après des normes artistiques et intellectuelles, ces livres produits in vacuo par des écrivains émigrés semblent aujourd'hui, quels que soient les défauts propres à chacun d'eux, plus durables et plus dignes d'être lus que ces monologues, soliloques intérieurs, serviles, curieusement provinciaux et conventionnels, qui coulèrent durant ces mêmes années des plumes de jeunes auteurs soviétiques qu'un état paternel fournissait en encre, en pipe et en chandail. Mais l'auteur auquel je me suis le plus intéressé, c'est naturellement Cyrine. Il appartenait à ma génération. Parmi les jeunes écrivains formés dans l'exil, il était le plus solitaire et le plus arrogant. Les lecteurs russes qui avaient été habitués dès l'enfance à la robuste démarche sans détour du réalisme russe et qui dénonçaient le bluff d'imposteurs décadents furent impressionnés par les jeux de miroir de ses phrases claires, mais étrangement fallacieuses, et par le fait que la véritable vie de ses livres coulait de ses métaphores, qu'un critique a comparé à des fenêtres donnant sur un univers contigu.
Que vous inspire cette lecture, Laure Troubetskoy, et cette façon finalement qu'a Nabokov de parler de lui-même, bon, sous pseudonyme, mais tout de même à la troisième personne, c'est un peu étrange, non ?
Ah ben c'est l'une de ses nombreuses facéties et choses trappes, mais cela dit, c'est vrai que je suis obligée de prendre une certaine distance pour me rendre compte que pour un lecteur d'autres rivages qui ne sait pas que Cyrine a publié toute son œuvre russe sous ce pseudonyme de Cyrine, que Nabokov, oui, qu'est-ce oui. que je dis, eh bien c'est complètement incompréhensible. On se dit, mais qui est ce Cyrine ?
C'est un jeu, alors vous dites que...
C'est un jeu, mais en même temps ça correspond à une réalité, puisque quand il écrit Autre rivage, il est déjà aux États-Unis, il est devenu écrivain de langue anglaise, sous son nom d'origine, Vladimir Nabokov, et Cyrine appartient désormais au passé. Donc c'est une plaisanterie, c'est une facétie, mais c'est en même temps la réalité. Personne ne publie plus sous le nom de Cyrine. Et quand, après le succès de Lolita, on a redécouvert ses romans russes, et qu'ils ont été traduits en anglais, puis en français, et puis réédités en russe aussi, aux États-Unis, ils l'ont été sous le nom de Nabokov. Donc c'est peut-être un cas unique, enfin je n'en connais pas d'autres, en tout cas d'une même œuvre qui a été publiée à une certaine distance temporelle sous deux noms d'auteurs différents.
Est-ce que vous avez d'autres exemples de ces chausse-trappes, de ces facéties dans l'œuvre de Nabokov?
Oh ben, il y en a beaucoup, mais par exemple dans son magnifique roman Le Don, dont le titre est un peu regrettable en français parce qu'on a l'impression qu'il s'agit du fleuve alors qu'il s'agit du
c'est
don.
C'est pas Rostov sur le Don, non.
Non, c'est donné. Le cadeau. Et en fait, le Don, c'est d'une certaine façon un roman de formation, l'histoire de la maturation du talent d'un jeune homme qui ressemble pas mal à Nabokov lui-même, et c'est aussi la capacité de percevoir la vie comme un don. Même dans des conditions matérielles difficiles. Et donc il y a une histoire d'amour qui s'inspire aussi beaucoup de l'histoire de Nabokov et de Vera. Et tout à fait à la fin, il semble qu'ils vont enfin être réunis. Les parents de Vera, chez qui elle habitait, partent à l'étranger. Donc ils vont enfin avoir accès à l'appartement et connaître leur première relation amoureuse aboutie, parce que jusqu'à présent, ils n'ont fait que se promener dans les rues de Berlin. Et simplement, si on était très attentif dans les passages précédents, on se rend compte que à la suite d'un quiproquo, ni l'un ni l'autre n'a la clé de cet appartement. Donc, ils ne pourront pas rentrer. Bon, forcément, ça finira par s'arranger. Mais l'auteur nous laisse au seuil de l'immeuble. Et seul le lecteur perspicace a compris qu'il n'avait pas la clé.
Mais l'humour est constant, hein. Cette espèce d'humour un petit peu distancié, qu'on pourrait dire presque un peu british, dans toute l'œuvre de Nabokov, y compris dans Autre Rivage. Il rit avec ses lecteurs ou il rit un petit peu contre ses lecteurs, selon vous ?
Oh, peut-être qu'il rit des lecteurs peu perspicaces, mais en fait cela ne l'intéresse pas beaucoup. Non, il y a cette forme d'humour.
Un côté cassant aussi.
Voilà, mais en même temps, vous avez tout un émerveillement devant la vie, une tendresse dans l'évocation de certains souvenirs. Et Nabokov, c'est justement un mélange tout à fait original de toutes ces composantes-là.
Alors, est-ce que l'exil était un don pour Nabokov, Lord Trubetskoy? C'est pas forcément l'impression qu'on a au premier abord. Par exemple, quand il parle de la France et des Français, quand il dit qu'il a rencontré des gens qui étaient absolument négligeables, des Allemands et des Français fantomatiques dans des villes plus ou moins illusoires.
Oui, alors, ça fait partie aussi de la construction de son image à laquelle il s'est livré activement aux États-Unis. De même que quand il parle de Cyril, de Cyrine, il dit qu'il était le plus solitaire et le plus hautain, je crois. Oui. En réalité, il n'était pas si solitaire que ça, il n'était pas si hautain que ça.
Aux États-Unis aussi, il n'était pas solitaire?
Non. Il avait deux milieux en fait d'adoption. C'était le milieu des spécialistes des papillons, des entomologistes, puisqu'il a travaillé dans deux musées successifs. Il a vraiment fait un travail de chercheur. Et là aussi, d'ailleurs, pendant ses absences, Vera à sa place a trimballé des caisses de papillons. Et le milieu universitaire. Et le milieu universitaire est le milieu de la critique. On connaît son amitié. Ils se sont brouillés ensuite, mais on connaît son amitié avec le critique Edmund Wilson, qui pendant longtemps qui d'ailleurs lui a mis le pied à l'étrier au début en lui donnant des comptes rendus de livres à faire. Donc il avait tout un réseau de collègues, de relations dont certains étaient des amis.
Donc le parcours alors, après l'exil, c'est d'abord Cambridge, c'est ça? C'est l'Angleterre pour commencer?
Oui, alors il a fait ses études à Cambridge, dont il parle, mais assez brièvement dans son autobiographie, mais qu'il évoque de façon beaucoup plus sensible et complète dans son roman L'Exploit, dont le héros est en partie autobiographique, fait ses études à Cambridge, et vous avez une très belle évocation de la vie à Cambridge à cette époque-là. Ensuite, il revient à Berlin, après la mort de son père.
Alors là, on est en plein dans les années 30.
Non, on est dans les années 20.
Son Encore père dans les années 20, il passe d'abord vers Berlin.
Oui, c'est parce que ses parents étaient installés à Berlin. Donc, son père est assassiné en mars 22 et Nabokov termine il obtient son diplôme universitaire à la fin de l'année 21-22.
Donc ensuite, il y a la France et il y a un retour
Berlin. Non, il s'installe à Berlin et il faut savoir qu'au début des années 20, Berlin, c'était vraiment la grande métropole de l'émigration russe. Mmh. Toute la vie intellectuelle était concentrée à Berlin.
Non, parce que je pensais au moment où Hitler va arriver au pouvoir et au sentiment qu'il peut ressentir à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on en sait finalement? Il y a son frère tout de même qui va être déporté, qui va mourir. Alors c'est pareil, ça c'est quand
dans
même
un camp de concentration,
quelque chose de terrible.
Il ne l'a su qu'en 45.
Oui. Quels sont ses sentiments par rapport au régime?
Il en parle peu, non pas parce que il refuse d'en parler, mais parce que d'une certaine façon, il ne s'intéresse pas à la sphère politique, sauf lorsque menace de s'établir ou s'établit une tyrannie contre laquelle il va protester, notamment dans ses œuvres. Il y a quand même plusieurs de ses romans qui sont sous une forme absolument romanesque, mais une dénonciation d'une tyrannie dans laquelle il confond dans les années 30 l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, qui forment à elles deux vraiment une image globale de la tyrannie.
Mais ça n'est pas l'écrivain engagé, tout au contraire, c'est l'écrivain de l'art pour l'art, on peut le dire.
Non, parce que cette dimension politique n'est pas absente, mais vous avez son roman russe, l'un de ses derniers romans russes qui s'appelle « Invitation au supplice », qui se passe dans une espèce de pays imaginaire, plus ou moins fantasmatique, et qui est un pays absolument totalitaire. Vous aurez par la suite d'autres romans américains aussi qui reposeront là-dessus.
Vous avez peut-être reconnu Lolita par Lana Del Rey, Laure Trubetskoy. En 1940, Nabokov part en effet avec Vera et leur fils Dimitri pour les États-Unis, à bord d'ailleurs du Champlain. Ce sera le dernier voyage du Champlain qui sera coulé par un sous-marin allemand au voyage suivant. C'est en effet le moment où la guerre éclate en Europe, où les chars allemands envahissent la France. Ils arrivent donc à New York dans la communauté russe et c'est là que Nabokov va tisser ses premiers liens. Il va devenir professeur, on en parlera jeudi notamment, se consacrer donc aux papillons. Et puis quelques années plus tard, 10 années, va paraître le roman qui va quand même changer un peu la vie de Nabokov, c'est-à-dire Lolita, Laure Trubetskoy. Il y a un avant et puis un après.
Sur le plan financier, oui, bien sûr, et sur le plan aussi de sa renommée, parce que quand il est arrivé aux États-Unis, il n'était rien. Il y avait quelques émigrés russes aux États-Unis qui le connaissaient, et au début il a eu quelques subventions de fonds d'entraide de l'émigration russe, mais enfin tout était à recommencer. Et il savait qu'il ne pourrait pas continuer à être un romancier russe parce que le lectorat était très faible. Donc c'est là qu'il a pris le grand tournant et qu'il a, je ne dirais pas il s'est mis à écrire en anglais parce qu'il avait déjà commencé, mais il est devenu un écrivain américain.
Alors pourquoi le choix de cette langue et pas de la traduction a posteriori dans d'autres langues d'un livre qui aurait été par exemple écrit en russe, voire même en français, puisqu'il maîtrisait parfaitement notre langue aussi?
Mais parce qu'il serait resté un émigré. Et justement, l'Amérique c'est la synthèse dans l'image de la spirale, parce que paradoxalement, alors que des Français ou d'autres Européens qui ont quitté leur pays pendant la guerre se sentaient exilés aux États-Unis, Nabokov n'était plus en exil aux États-Unis.
Il est devenu un vrai Américain, selon vous?
Oui, il a eu la nationalité américaine et il a construit sa vie aux États-Unis.
Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez qu'il a intégré l'état d'esprit, par exemple, américain?
Oui et non. Alors, dans l'Élita, il en sera sans toute question.
Mercredi.
Oui, mercredi. Mais évidemment, il a une vision ironique de beaucoup d'aspects des États-Unis. Mais en même temps, il se sent pleinement, il se sent de plein pied aux États-Unis. Et pour lui aussi, les États-Unis sont un rempart contre le communisme. Bon. Mais donc, pour en revenir à sa langue d'écriture, il avait commencé à écrire dans d'autres langues en Europe, et il savait qu'en fait il devrait prendre ce tournant. Mmh. Il a écrit deux textes en français, Mademoiselle O, l'une des variantes de l'histoire de la gouvernante suisse, et un article sur Pouchkine, et il a commencé en anglais La vraie vie de Sébastien Knight, il a commencé en Europe, et qu'il réussira à publier aux États-Unis après son arrivée.
Est-ce que le vocabulaire très étendu de l'anglais lui permettait aussi quelque chose qui lui correspondait mieux que par exemple la langue française, qui trouve sa force peut-être ailleurs que dans l'étendue du vocabulaire?
C'est vrai que l'anglais est peut-être plus souple, et d'ailleurs c'est plus facile de traduire entre l'anglais et le russe qu'entre le français et le russe. Mais je crois que c'est aussi une question de circonstance. S'il avait pu s'établir en France, il serait peut-être devenu un écrivain français, qui sait.
Comment ça se passe ensuite les années 60-70 avec ce départ des États-Unis pour la Suisse? Alors évidemment, il y a le fait qu'il est devenu riche et célèbre et qu'il n'a donc plus besoin réellement de donner des cours aux États-Unis. Il est donc libre de ses mouvements. Mais pourquoi le choix de la Suisse, Laure Troubetskoy?
Il n'a pas choisi tout de suite. D'ailleurs, il y a une période intermédiaire où il séjourne et puis il revient aux États-Unis 6 mois. Mais ça, c'est parce qu'il a fait avec Stanley Kubrick le scénario de Lolita.
Oui. Stanley Kubrick ne l'a d'ailleurs pas beaucoup remercié puisqu'il ne l'a pas invité à la première du film de Lolita.
Et finalement, il se fixe en Suisse. Il y a une question familiale. Il s'est rapproché de sa sœur Elena Sikorski, qui habite en Suisse. Il y trouve un lieu calme et surtout, il arrive à se ménager un espace loin de la célébrité. Paradoxalement, la célébrité lui rapporte de l'argent, mais en même temps, étant donné le succès de scandale qu'a eu Lolita, il est harcelé par les journalistes aux États-Unis. Alors qu'à Montreux, il est tranquille. Mais alors, ce qu'il y a de caractéristique, c'est qu'il va passer tout le reste de sa vie à l'hôtel. Bon, dans une suite, évidemment, très confortable, etc. Mais il n'a jamais possédé de maison.
Pour quelle raison, selon vous?
Alors, on lui a demandé dans une interview, l'une de ces interviews qui sont réunies sous le titre de Intransigeance en français, Strong Opinions. Et il dit que, posséder une maison, ça aurait été pour lui dérisoire par rapport à tout ce qu'il a eu. Non pas parce qu'il aurait voulu retrouver quelque chose d'aussi fastueux, vaste et confortable, mais enfin...
Ça ressemblait plus, le grand hôtel de Montreux, à la maison de son enfance,
d'une
finalement.
D'une certaine façon. Et puis, c'était peut-être une façon de ne pas se fixer. Il progressait sur une trajectoire d'écrivain, mais il ne voulait pas se fixer.
Alors, je ne sais pas s'il était moins harcelé, sans doute, à Montreux par les journalistes. Il a quand même donné une interview extrêmement célèbre, dont on a donné des extraits dans cette émission à Bernard Pivot. Extrêmement célèbre parce que il avait mis un certain nombre de conditions, je ne sais pas si vous les avez en tête, Laure Troubetskoy, pour participer à cette émission. Alors, il avait réclamé un urinoir portatif, passons, mais surtout, il avait tout fiché et il lit ses réponses à Bernard Pivot qui essaye tant bien que mal de faire comme si l'interview était improvisée. Ça nous dit quelque chose de l'homme, ça?
Oui, il le fait tout le temps, sauf que là, c'était la télévision, c'était encore plus étonnant, mais toutes ces interviews qui ont été rassemblées, donc dans l'ouvrage dont je parlais, ont été préparés à l'avance. C'était un peu ce qu'on disait autrefois, c'était une blague sur les conférences de presse de De Gaulle, fournissez vos questions à mes réponses. Il exigeait d'avoir les questions et ses réponses étaient rédigées. Alors il disait qu'il improvisait très mal, qu'il n'était pas du tout éloquent, qu'il ne savait qu'écrire. Mais en même temps, il y avait ce désir d'exercer un contrôle total sur l'image que les lecteurs pouvaient avoir de lui.
Il y avait une certaine rigidité chez cet homme qu'on va continuer à découvrir jusqu'à jeudi. Merci beaucoup, Laure Troubetskoy. Je rappelle que vous avez traduit notamment Les Lettres à Vera de Nabokov paru chez Fayard en 2017. On vous doit également la traduction de certaines des nouvelles présentes dans le volume Quarto, des nouvelles complètes présentes aux éditions Gallimard, ainsi que la chronologie. Et puis on vous doit aussi la traduction de la préface à l'édition russe d'Autres Rivages, disponible chez Folio. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Vanessa Prévost, Garance Mazelier, Didier Pinault et Élise Leu. Nous poursuivons demain notre exploration de l'univers de Nabokov. Il sera question avec Yannick Chupin du nombre important des personnages d'écrivains justement dans son œuvre. Et nous verrons avec elle ce que cela signifie. Mais pour l'heure, comme chaque jour, c'est le retour de la poésie, choisie et interprétée par Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Cette semaine, une forme poétique en prose. Oui, ben c'est pas la seule. Oui, s'il vous plaît, Jacques, s'il vous plaît, on commence. Hein. Un livre d'Éric Poindron, Comme un bal de fantôme aux éditions du Castor Astral. Toute présentation risque d'être incomplète ou généreusement insuffisante pour celui qui se présente comme éditeur, écrivain, piéton, critique et crypto-bibliopathonomade, et qui anime la collection Curiosa, etc. au Castor Astral. Voici le poème. Le lecteur somnambule. Comme je fuis le sommeil, je lis jusqu'à l'épuisement. Le matin, il existe un temps nouveau, un autre ici inexplicable, qui succédera au réveil. Il faut recommencer chaque jour. Chaque fois, nous ouvrons et inaugurons un nouveau studio-lot, une chambre des merveilles confidentielle et imaginaire. Qu'avons-nous fait durant la nuit? Des rêves, des pas, des sauts de l'ange? Les philosophes, les phrénologues de naguère et les neurologues sont incapables d'expliquer cet endroit méconnu. Plus tard dans le poème. Sur le lit, un livre ouvert que je n'ai pas ouvert. Les mots de Lord Byron, mémoire, je lis sans hâte. Quant à la poésie, la mienne n'est que le rêve des passions qui sommeillent. Une fois réveillé, je ne sais plus parler leur langage que dans leur somnambulisme, et dans ce moment, elles ne dorment pas, comme un lecteur somnambule. À la page 144, nageur et poète, Lord Byron était boiteux. Pieds difformes et pieds beaux. Lord Byron adorait la natation. Lord Byron était poète. La nation fut sa plus grande poésie. 1809, à Lisbonne, il franchit l'embouchure du Tage, triton majestueux, héros. Il faut s'étendre sur la surface de l'eau, la battre successivement du gras de la jambe, du coude, de chaque main étendue. L'eau bouillonne autour du nageur, le voilà ainsi qu'un dieu marin en majesté qui sème autour de lui le grand bruit et fait jaillir les eaux. 1818, Lord Byron s'installe à Venise et commence la rédaction de Don Juan. Il aime les longues nages nocturnes d'une main. De l'autre, il tient une lanterne afin de signaler sa présence aux gondoles. Autre défi, rejoindre Venise partant du Lido. Citation de Lord Byron. « Tu pleures ta jeunesse, alors pourquoi vivre? Puisque voilà le lieu d'une honorable mort, meurs au combat. Ce qui te conviendra le mieux sera d'un soldat le tombeau. Tout près tu trouveras ce lieu et le repos. » Sont les derniers vers de Lord Byron. J'achève en ce jour ma 36e année, l'âge de sa mort. Lord Byron, infirme dandy, héros, nageur et poète.
Jacques Bonafé, merci.